Bonjour à tous. Je vais prier avant de vous donner le message. Père Céleste, merci pour ta parole qui donne vie, qui est esprit. C'est ta parole qui nous guide, qui nous dirige, qui nous éclaire, Seigneur. Je te prie vraiment d'être vraiment sur moi par ton esprit, Seigneur, que tout ce que je vais dire du début à la fin soit toujours guidé par ton esprit, Seigneur. Que nous puissions tous ensemble vraiment apprendre à travers ce que je vais dire, Seigneur, et que tout le monde puisse mettre en pratique pour que l'Église de sa mort soit une Église en bonne santé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ça résonne un peu ou pas? Ça va? Non. Alors, pour la nouvelle année, cette année 2018, le pasteur a choisi pour thème une église en bonne santé. Alors, je pense que ça sera une bonne santé spirituelle. Et j'ai une question à vous poser. Pour avoir une bonne santé physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Du sport, c'est tout? Oui. Alors, la Séki nous dit qu'il faut manger 6 à 10 légumes et fruits par jour. Après, vous avez oublié quelque chose de plus important. Boire de l'eau. 1,5 litre à 2 litres par jour. Dormir, avoir les horaires réguliers de sommeil. Avoir les heures suffisantes de sommeil. Boire 1 à 2 verres du vin. 1 verre pour les femmes, 2 verres pour les hommes, du vin rouge. C'est bon pour le cœur. Pas de cigarettes, pas de drogue, tout ça, voilà. Ça, c'est, il faut discipliner. Quelqu'un voulait parler du sport, mais une bonne marche, ça suffit aussi. Marcher à partir de à peu près 40 minutes jusqu'à 1 heure. Quand j'étais médecin, je conseille à tous les malades diabétiques ou hypertendu de marcher, parce que c'est à partir de la 30e minute que notre corps va commencer à brûler les calories. Mais la marche rapide, hein, si vous marchez, parlez, papotez, ça ne marche pas. C'est la marche rapide, 1 heure. Voilà. Alors maintenant, je pense que ça doit être pareil pour notre bonne santé spirituelle. C'est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et c'est pour cela que j'ai choisi le thème pour aujourd'hui, pour partager avec vous. J'en ai trouvé 3. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais il y en a 3. Voilà, le premier, c'est que tous les hommes soient sauvés. Deuxième, que nous progressions dans la sainteté. Troisième, que nous lui rendions grâce en toutes circonstances. Je vois la première avec vous. Que tous les hommes soient sauvés. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Parce que à l'époque de Pierre déjà, il y a beaucoup de gens qui se moquent des chrétiens. Il leur dit que vous nous avez annoncé que Jésus va revenir, mais il n'est toujours pas là. Et voilà, c'est ce que Pierre leur répond. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà. Et dans les 4 évangiles, surtout les 3 évangiles, quand Jésus a commencé son ministère dans la Galilée et dans la Judée, il dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Et Jésus il parcourt toutes les villes, tous les villages de la Galilée, de la Judée, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà, c'est justement, il est venu, il a dit, il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont malades. Voilà, c'est pourquoi je vous ai partagé comme quoi c'est vraiment Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour que tous les hommes soient sauvés, il faut qu'ils aient entendu la bonne nouvelle. Le Seigneur l'a fait. Il a choisi 12 apôtres, plusieurs disciples. Et justement, dans la Bible, nous savons que la Bible nous dit que depuis que le représentant de notre humanité, Adam, a péché, a désobéi à la parole de Dieu, Dieu l'a mis dans un jardin, lui a dit, tu peux tout manger, sauf le fruit qui reconnaît de l'arbre, qui reconnaît le bien et le mal, le jour où tu mangeras, tu mourras, et c'est certain. Adam a choisi de désobéir à Dieu, donc il a mangé ce fruit. À partir de ce moment précis, le mal est entré dans le monde. Adam est devenu pécheur. Donc, Dieu lui a dit, tu mourras, c'est certain. Et là, sa vie spirituelle est morte. Sa vie physique va poursuivre quelques années, mais à la suite, il va mourir. C'est la preuve que chacun de nous doit mourir. Le péché, le point de vue biblique, bien sûr, vous allez me dire, péché, c'est voler, tuer, tout ça. Mais le péché au sens biblique de Dieu, c'est vraiment désobéir à Dieu, révolte contre Dieu, ne pas obéir à la personne de Dieu et son autorité. C'est ce que fait Adam. Paul nous a dit, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Donc la mort spirituelle, tout de suite, dès qu'il a mangé le fruit, et la mort physique. Donc, nous sommes tous condamnés à être séparés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, et aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Mais, dans son grand amour, Paul l'a dit, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous sommes tous mérités à la mort. Dieu a envoyé son Fils mourir venu sur la terre en tant qu'homme pour pouvoir porter mon péché, ton péché sur son corps, ensuite aller à la croix, mourir. Par sa mort, le mal et le péché est mort. Et comme il ne mérite pas la mort, il est saint, Dieu l'a ressuscité au troisième jour. C'est-à-dire, quand il est ressuscité, il a vaincu à la fois le péché et la mort. Et là, Dieu donne à chacun la foi en Jésus-Christ d'avoir la vie éternelle. C'est ce que dit Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais nous oublions souvent le verset suivant. Ceux qui croient ne sont pas condamnés, ils passent de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que si on croit, on est sauvé, on a la vie éternelle. Si celui ne croit pas, il sera condamné et subir la colère de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour nous sauver. Et comme Jésus, pendant les 3 ans de ministère, il a formé ses disciples, quand il est monté au ciel, il nous a donné justement, il leur a donné à ses disciples du premier siècle le commandement que vous connaissez tous, je suppose, Matthieu 28, versets 18 à 20, est-ce que vous connaissez par cœur? Quelques-uns, non? On va dire ensemble. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai appris. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, avant de monter au ciel, il a aussi dit dans Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est bien ce que les disciples du premier siècle ont obéi. C'est grâce à eux, ils ont parlé, annoncé l'évangile d'une génération à d'autres générations, ce qui arrive jusqu'à nous. Imaginons si personne n'annonce l'évangile, est-ce qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui? Voilà, donc ça c'est vraiment l'ordre du Seigneur que nous parlons. Dieu nous a sauvés, c'est pas point barre. Nous, on Dieu nous a sauvés pour que nous puissions parler de lui, faire connaître ce Dieu qui nous aime tant, qui est mort à la croix pour nous, pour parler aux autres. Paul l'a dit, je le sais, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Malheur à moi s'il ne prêche pas l'évangile. Voilà, frères et sœurs, nous avons connu cette bonne nouvelle. Les pécheurs, chacun doit mourir, mais Jésus est mort pour moi, pour toi, nous a sauvés. On ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous tous, tout seul. Donc c'est vraiment de parler aux autres. Alors, peut-être tu vas me dire t'as peur ou t'es pas formé ou je sais pas. Là, je ne juge personne. Je trouve que ça c'est vraiment un ordre de mission du Seigneur. C'est pas on peut pas dire c'est le pasteur, c'est la missionnaire et tout. Je n'ai pas de. Une fois, j'ai entendu une sœur qui m'a dit « Je n'ai pas le don ». Mais ce n'est pas un don. C'est comme si j'ai mangé un bon gâteau. Je veux le partager avec d'abord les personnes que j'aime beaucoup. Voilà, quand je suis convertie au Seigneur, les premières personnes à qui j'ai parlé, c'est les gens de ma famille. J'en ai parlé à mon frère, puisque mes sœurs sont déjà converties, genre j'ai parlé à mes amis. Voilà, c'est ça. Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils soient sauvés ou non, c'est qu'ils s'y croient. Mais c'est à nous de leur parler l'évangile. Voilà, c'est pour ça, pour cette nouvelle année, vraiment, j'exhorte nous tous. Prions pour que Dieu nous donne le zèle et cette envie, cette courage, cet amour pour les perdus, quoi. Moi, des fois, quand je suis dans le RER ou même dans l'avion et tout, je vois toutes ces personnes. Je demande à Dieu combien de personnes sont chrétiens, combien ils sont sauvés. Mais je n'ai pas le courage de parler comme ça devant les étrangers. Donc, je demande pardon à Dieu parce que je me suis dit, si je suis la seule qui est sauvé dans cet avion ou dans cet train, et après c'est vraiment affreux, quoi. Mais c'est vrai, je n'ai pas ce courage là. Le courage que j'ai, c'est parler à les gens que je connaisse bien. Donc je conseille vraiment, bien sûr, ça il faut être vraiment avoir le don de parler au public. Mais je pense qu'à notre époque, les gens vont nous prendre comme fous si on parle comme ça. Donc actuellement, je pense que dans notre circonstance, c'est vraiment d'établir des bonnes relations avec les voisins, nos camarades et tout. Voilà, donc pour cette année, prier pour voir quelles sont les personnes que le Seigneur veut que tu parles, tu partages la bonne nouvelle avec eux. Alors, la deuxième, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous, c'est dans 1 Thessaloniciens 4 et 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est ce que Pierre l'a dit dans 1 Pierre 1, chapitre 1, 14 à 16. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Oui, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés, il est saint. Saint, ça veut dire séparé de tous les autres, mis à part, sans péché. Dans Exode 3, verset 5, quand Moïse a vu le buisson ardent, il veut aller s'approcher et Dieu lui a dit, « Ôte tes sandales de tes pieds, ce lieu est un lieu saint. » Quand il y a la présence de Dieu, c'est saint. Et dans Josué 5, verset 15, c'est pareil. Avant d'attaquer la ville de Jéricho, l'ange de l'Éternel s'est présenté à Josué. Et pareil, Josué lui a dit à Josué, « Ôte tes sandales, le lieu où tu te tiens, c'est saint. » Et dans Ésaïe, chapitre 6, verset 3, quand Ésaïe, dans sa vision, il a vu le Seigneur avec les chérubins, il a entendu la louange, c'est « Saint, Saint, Saint et le Seigneur ». Donc notre Dieu, c'est un Dieu saint, zéro péché, zéro mal. Donc si nous sommes, et dans le Lévitique, si vous parcourez tout le Lévitique, c'est vraiment le thème central, c'est la sainteté de Dieu, et il veut justement à l'époque, dans l'Ancien Testament, le peuple Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Et Dieu l'a dit dans... Voilà. Ils ont marché, Dieu les a sortis d'Égypte après les 10 fléaux. Ensuite, ils ont marché dans la mer avec les pieds secs. Au bout de 3 mois, ils sont arrivés dans le désert du mont Sinaï. Et c'est la première fois que Dieu veut que Moïse leur parle. Et c'est ce que Dieu leur dit. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, Dieu a dit à Moïse de parler au peuple Israël qu'il est en train de former. Et là, vous voyez, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vécu pendant 400 ans dans l'Égypte. Ils ont connu la culture, les coutumes d'Égyptiens. On sait que les Égyptiens adorent beaucoup d'idoles. C'est pour cela que Dieu les a amenés d'abord, avant d'aller dans la terre promise, le Canaan, dans le désert, mis à part, pour être, ne pas avoir toutes ces pensées, toutes ces mauvaises choses qu'ils ont gardées pendant déjà des générations en générations. Dieu les a mis à part. Là, ils sont seuls avec Dieu dans le désert. En plus, à l'époque, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de portable, donc c'est super bien. Donc, là, c'est vraiment Dieu, puisque Dieu veut qu'il soit le peuple de Dieu, Dieu a besoin de les instruire, leur apprendre comment lui rendre un culte, comment l'obéir et tout ça. Et nous sommes tous maintenant le peuple, le nouveau Israël, le peuple de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, « Soyez saints, car Dieu est saint. » Alors, je vais peut-être me demander comment c'est là. Il y a beaucoup de chapitres, je vais vous résumer. Dans Éphésiens, dans Colossiens, dans 1 Thessaloniciens, Paul a beaucoup écrit sur comment avoir une vie sainte. Alors, je vais vous partager avec vous, j'ai parcouru un peu dans Éphésiens 4. Paul, il dit, Paul, d'abord, dans la plupart de ses épîtres, il donne d'abord l'enseignement théologique. Et ensuite, il passe à la pratique, à l'application. Et là, dans les autres épîtres, il a parlé que comment Jésus les a sauvés, les a purifiés. Il leur demande de vivre une vie qui est conforme à la nouvelle identité qu'ils ont. Et là, il passe en pratique. Alors, Paul aime bien le mot « débarrasser », enlever un vêtement sale et puis revêtir un vêtement pur, sain. Donc là, il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser des vieils hommes qui correspondent à votre ancienne manière de vivre et se détruisent sous l'effet de ces désirs trompeurs. Vous voyez ici, d'abord, pour avoir progressé dans la sainteté, déjà, il faut qu'on débarrasse. J'aurais dû venir avec un vêtement sale, en fait. enlever toutes les anciennes manières avant de croire en Jésus, avant d'être purifié par Jésus. Tous les mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est, en fait, c'est les pensées de ce monde que nous avons eu. Ensuite, après avoir enlevé ça, il faut revêtir autre chose. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà. Dans notre vie chrétienne, il y a deux étapes. La première étape, Dieu nous a sauvés, nous a déclarés justes. Ça s'appelle la justification. Et en même temps, il nous a fait naître de nouveau. Ça veut dire, avant, je vous ai dit, spirituellement, nous sommes morts. Là, il nous a fait naître spirituellement. On est des nouveau-nés spirituels. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à notre mort, c'est le processus de sanctification. Dieu veut que nous recherchions la sainteté, de ressembler de plus en plus. Le but final, c'est ressembler de plus en plus à l'image de son Fils, ressembler à Jésus-Christ. C'est bien ce que Dieu a fait dans Genèse. Nous avons vu, il nous a créés à son image. Mais comme Adam a défié, a désobéi à Dieu, l'image que Dieu a créée est souillée, et là, vraiment, il a envoyé son Fils pour nous remettre, renouveler notre, voilà. La nouvelle naissance jusqu'à notre mort, c'est ce chemin, c'est la recherche, la progression dans la sainteté. C'est pour ça que je trouve que c'est pas mal. Paul s'est enlevé le vieil vêtement, notre mauvaise nature, et revêtir les bonnes vertus de Jésus. Pareil, en pensée, vous voyez, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ensuite, remplissez par des choses de bien. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, je vais dire pardonnons-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Le non-pardon, c'est pas la sainteté. Colossiens 3, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Vous voyez, terrestre, c'est le vieil vêtement, la vieille nature, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Alors, la soif de posséder, je crois que dans ce monde actuel, c'est vraiment, c'est très à la mode. Tout c'est à moi, à moi, à moi. Je veux encore plus. Qui est une idolâtrie? Alors, renoncer, tout ça, c'est renoncer. Vous voyez, c'est la même chose, hein, colère et tout ça, grossièreté et tout. Donc, pour l'apôtre Paul, même les plaisanteries concernant le sexe ou autre chose, c'est aussi, c'est pas bon, quoi. C'est... Là, par contre, ayant débarrassé des choses qui ne sont pas bien, il faut quand même remplir des choses... avoir des choses bien, supportons-nous les uns les autres si l'un de nous a une raison de se parler d'un autre, pardonnons-nous réciproquement. C'est tellement important que Paul l'a toujours écrit, même dans Colossiens, même dans Éphésiens. Et mais là il a dit par-dessus tout, revêtons-nous de l'amour qui est le lien qui tient tout. Je pense qu'on fait la farine, s'il n'y a pas de l'œuf, on ne peut pas faire la pâte. Donc, je ne sais pas, le pâtissier est d'accord. Donc, l'amour, c'est le lien de la perfection, de l'immon. Donc, en fait, la sanctification, c'est deux actions, selon Paul. Hein. D'abord, débarrasser, faire mourir, c'est les mots, hein. Disparaître, pas seulement des actes, mais des pensées. Parce que c'est les pensées qui nous poussent à avoir les actes. Même les désirs, hein, le Seigneur dit. Hein. Ensuite, on ne s'arrête pas là. Il faut tout ce qu'on a débarrassé soit rempli par autre chose. Voilà, revêtir, remplir, avoir des pensées pures, pratiquer des actes selon la vérité et la justice. Et puis, porter le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez, l'amour, c'est en premier rang, hein. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, vous voyez, la liste est longue, hein. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que je vous montrais ça. Merci Bernard, il m'a aidé à mettre les mots sur l'avion. J'ai trouvé l'avion. Vous voyez qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre progression dans la sainteté. C'est l'avion. L'aile gauche, c'est l'action. C'est notre responsabilité à nous. On doit rechercher à avancer dans la sainteté. Faire tous nos efforts, discipliner, c'est pas facile, hein. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais c'est une vie de discipline. Puisqu'on dit que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc ça vient de discipliner. On a besoin de discipliner notre vie. C'est comme les étudiants pour réussir leur examen, il faut qu'ils bossent. S'ils bossent pas, ils peuvent pas réussir leur examen. Et nous, en tant que, pour progresser dans la sainteté, nous avons besoin de nous discipliner à la lecture de la parole de Dieu. Pas seulement lecture, mais vraiment retenir des versets. Merci Clément, parce que tout à l'heure, le chant, c'est Jérémie 29, verset 11. Donc, si vous avez chanté plusieurs fois, vous avez déjà retenu déjà un verset. Vraiment, frères et sœurs, c'est retenir parce que pour pouvoir méditer après. Le psaume 1 et le psaumiste, il dit, trouvez la joie dans la loi de l'Éternel, méditez jour et nuit. Si je ne retiens pas les paroles, comment voulez-vous que je médite? Et Paul nous a dit dans Éphésiens 6 que l'épée, la parole de Dieu, c'est une épée. L'épée est à la fois défensif et attaquant. Donc, si Satan nous attaque, si nous n'avons pas la parole de Dieu pour le faire fuir et pour nous défendre, on est mal. Voilà. Donc, vraiment, disciplinez-nous à lire la parole de Dieu, retenir, méditer, prier, vraiment prendre du temps avec le Seigneur. Ça, c'est notre part. Mais dans tout ça, le deuxième L, dépendance. Nous devons dépendre de qui? Du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je peux faire tous mes efforts, j'arriverai à rien du tout. Donc nous avons besoin, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu nous a fait naître de nouveau par le Saint-Esprit. Et là, c'est pareil. Il continue son œuvre en nous. Paul, il l'a dit, jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, Dieu continue son œuvre en nous, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va transformer notre cœur, qui va nous aider à dire non à tous les mauvais désirs, à toutes les tentations, et à vouloir progresser dans la sainteté. Par exemple, à vouloir pardonner à un frère ou une sœur qui nous a blessés, à vouloir prendre soin des autres, tout ça, ça ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et dans tout cela, l'avion pour voler, il a besoin de carburant. Notre carburant là-dedans, dans notre sainteté, c'est notre amour pour le Seigneur. Si on n'a pas goûté à l'amour du Seigneur et lui répondre par l'amour, si on fait que par devoir, je pense qu'on peut pas aller loin. C'est en par amour pour le Seigneur que nous fassions, nous voulons progresser dans la sainteté. Sinon, ça marche pas. Et dans tout ça, il y a la grâce. Dieu nous a sauvés par grâce. Et là, c'est pareil. Nous avons besoin de toujours de dépendre de sa grâce pour avancer dans la sainteté. Si, parce que dans cette marche, c'est une longue marche, hein, mais c'est une longue marche qui amène vers la vie éternelle, vers le paradis. C'est pas comme Mao Zedong, ils ont fait une longue marche, ils sont arrivés en Chine. Donc, mais cette longue marche, c'est vraiment, il y a beaucoup de luttes à l'intérieur, en dehors et en dedans. En dedans, c'est nos mauvais penchants qui est collé à nous encore. Dehors, c'est les attirances, les convoitises que Satan nous donne. Et voilà, donc il y a tous connaître, je pense que tout le monde est d'accord, nous avons chuté pendant cette marche. Mais le Seigneur est juste et bon, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Si nous confessons, il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier de tout mal. Donc c'est pour cela, ne jamais marcher cette marche tout seul. Sinon, quand tu tombes, personne ne te relève. Tu auras du mal à relever. Marchons ensemble. Tous ensemble, le plus de compagnons ensemble, pour pouvoir justement nous soutenir. Quand quelqu'un est découragé, bah, l'autre qui est un peu plus top, un peu dans la foi, il peut, et puis d'autres fois, voilà, soutenir, encourager et réconforter tout ça. Voilà. Quand Jésus a envoyé ses disciples, c'est au moins deux par deux. C'est jamais seul. Voilà. Donc c'est, vous voyez, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein? Comme, voilà. Retenez, action, dépendance, amour et grâce. Le troisième, Dieu veut que nous lui rendons grâce en toutes circonstances. Ah oui, je vais revenir un peu. Alors, donc ça veut dire que en tant que chrétien, si nous voulons avancer dans la sainteté, ça veut dire que nous devons faire tous nos efforts pour être vraiment exemplaires dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine qui échappe. Aussi, par exemple, quand nous faisons notre travail, organiser nos loisirs, conduire la voiture, faire nos courses, tout ça, on devrait faire de telle manière que les non-chrétiens ne trouvent rien à nous reprocher, mais attirés par notre bonne conduite et vouloir connaître le Seigneur. C'est là, c'est le meilleur moyen de témoigner pour attirer les gens vers Jésus-Christ. Par contre, si mes amis savent que je suis chrétien et qu'ils me voient me conduire pire que les non-chrétiens, voilà, c'est vraiment la honte pour le nom du Seigneur. Là, nous déshonorons le nom de notre Seigneur. C'est pour cela, c'est vrai, quand j'ai conduit ce matin dans la voiture, j'ai pensé à ça. En fait, chacun de nous, si on dit aux autres personnes, on est chrétien, on est tous ambassadeurs du Christ. Et en tant qu'ambassadeurs, tous nos actes, toutes nos paroles et tout, les non-chrétiens nous épient, hein, ils nous guettent pour trouver un moment, aïe, ça y est, t'as fait faute, tout ça. Donc vraiment, j'ai pas eu ça, mais là, maintenant, je sais, maintenant, c'est pour ça que je vous ai raconté l'autre jour quand je me suis éclatée en colère devant l'infirmière, j'avais honte. Pas pour moi, mais pour mon Seigneur, quoi. C'est pour ça que j'ai gardé ce flash dans ma tête, je ne me permets plus d'être en colère comme ça, quoi. Voilà, vraiment penser que nos actes, nos paroles, nos actions n'est pas anodin, hein. Il y a le nom de Seigneur qui est en jeu. Voilà. Troisième chose, c'est que voilà, donc Dieu veut que nous lui soyons reconnaissants envers lui en toutes circonstances. Voilà, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En Colossiens 3, Paul l'a dit aussi, que vous fassiez en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut qu'on soit reconnaissant envers lui? Je pense que le fait d'être reconnaissant, le contraire de reconnaissance, c'est quoi? Oui, un craint. Quand on est reconnaissant, ça nous évite de se plaindre, de murmurer, d'avoir des doutes, et ça nous rend vraiment, ça nous permet, ça c'est ce que Clément nous a fait chanter tout à l'heure. Avoir un cœur reconnaissant, c'est vraiment pour notre bien. Parce que ça veut dire que pour avoir un cœur reconnaissant, on doit déjà d'abord avoir goûté à la bonté de Dieu. Avoir expérimenté vraiment les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et il y a deux choses. Pour mieux connaître Dieu, la première chose, c'est vraiment expérimenter l'amour de Dieu dans ma vie, avoir vu les bienfaits dans ma vie. Deuxième chose, c'est à travers la Bible. La Bible nous parle de Dieu, et en lisant la Bible, nous connaissons beaucoup plus les attributs de Dieu, ses œuvres, ses promesses, et ça aussi, ça nous aide aussi à le connaître plus. Et c'est vrai. Tout à l'heure, on s'est réunis ensemble là-haut pour prier pour notre sœur Béatrice qui est gravement malade. Donc, c'est vrai que remercier Dieu quand tout roule, quand tout va bien, c'est facile, hein. Toi et moi, on peut le faire. Mais quand ça va mal, par exemple le cas de notre sœur Béatrice, je remercie le Seigneur au début pendant qu'elle était malade, quand elle a appris la gravité de sa maladie, elle m'a dit, je fais confiance au Seigneur. Ma vie est entre ses mains. Je loue le Seigneur pour vraiment sa foi en Jésus-Christ. Et vraiment, ça, c'est à ce moment-là, c'est le test de notre foi. C'est le test de notre vie chrétienne. Si tout va mal, si tout s'écroule, que je peux encore dire merci Seigneur, si c'est ta volonté, je me soumets. Ça, c'est la chose la plus précieuse pour chacun de nous. Et je pense aux chrétiens du premier siècle, sous l'empereur romain, déclare qu'il croit au Seigneur, on les jette dans les arènes, tout de suite déchirés par les lions et tout ça. Mais eux, ils ont gardé la foi et tout ça. Voilà, donc vraiment, alors, quand je vous dis lire dans la Bible, parce que c'est vraiment la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous rappellent de l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Moi, j'aime beaucoup le psaume 103. Psaume 103, j'ai partagé avec vous quelques psaumes. Alors, il y a Romains 8. Verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Ensuite, 37 à 39, je pense que vous connaissez tous. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si Dieu nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner encore ? J'aime beaucoup le psaume 103. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Alors que moi, je suis la première, riche à la colère et pauvre en bonté. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voilà, donc vous voyez, c'est lire la parole de Dieu, méditer justement, si vous voulez, par exemple, Lamentation de Jérémie 3, 21, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, sa compassion ne prend pas fin et se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. » Vous voyez, c'est quand je suis dans le découragement, quand j'ai une journée, quand ça ne passe comme je veux, je récite les versets bibliques à moi, je le dis à mon âme, et là, ça m'encourage et ça me donne encore ça me donne de l'énergie, quoi. Et ça, c'est vraiment ça qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce carburant-là. La parole de Dieu, c'est aussi le carburant. Alors, il y a plein, hein, il y a Ésaïe 49, verset 15, j'aime beaucoup. Dieu dit, Dieu dit, une femme qui est à l'aide, est-ce qu'elle oublie son bébé? Même si la maman oublie son bébé, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Et David, dans le psaume 27, 10, il dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, tu me prends, tu m'occupes de moi. Bon, vous voyez tout ça, quand on se dit, ouais, Dieu, où est-ce que tu es? Tu es loin de moi, tu t'entends plus, je sens plus, non. Mais en fait, la foi en Dieu, c'est pas les sentiments, hein. L'amour de Dieu, c'est pareil. Je veux dire, c'est vrai, on peut parfois sentir, mais ne vous fiez pas aux sentiments. C'est vraiment cette vérité dans la Bible. Dieu nous aime. Il faut dire, Jésus a dit dans le Jean 6, verset 63, l'homme n'arrive à rien, c'est mon esprit qui fait vivre. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous voyez que vraiment la parole de Dieu est importante, primordiale pour notre vie spirituelle et pour notre progression dans la sainteté. Voilà. Donc, vous avez bien retenu les volontés de Dieu, premièrement, que tous les hommes soient sauvés, deuxièmement, c'est pour voir si vous avez fait la sieste, sanctification, troisièmement, alors maintenant, comme à l'anniversaire de Clément, j'ai trouvé 4 S, et là, je vous ai donné E, S, R. À vous de donner, qu'est-ce que c'est? E, c'est quoi E? La première volonté? Évangélisation. S, plus fort. Oui, sanctification ou sainteté, d'accord? R, oui, amen. Donc, voilà, vous êtes juste. Évangéliser, sainteté, reconnaissant. C'est facile, hein? Vous avez le ESF ou je sais pas quoi, mais nous, c'est ESR. Voilà. Alors, pour conclure, donc, nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a sauvés, pas seulement pour vivre une vie confortable et jouir de tout ça, mais Dieu veut que nous le servions. Vous savez qu'en tant que chrétien, on ne sera jamais à la retraite ni au chômage. Vous êtes d'accord? Voilà. Dieu nous a créés pour le servir. C'est ce que Dieu a fait avec Adam dans le jardin. Il a dit « garder et s'occuper le jardin ». Il n'a pas dit à Adam « jusqu'à quel jour tu seras à la retraite ». C'est tout le temps. Voilà, donc, vraiment, je souhaite que pour la nouvelle année 2018, nous tous qui est membres de Saint-Marc, que nous puissions vraiment tous prions pour que Dieu nous donne, nous ranime le zèle de parler de notre foi. Je vous demande pas d'aller dans la rue ni dans le métro, mais simplement à des personnes à nos côtés. Prions, si nous voulons le faire, Dieu va nous aider à le faire. Et aussi progresser dans la sainteté et toujours reconnaissant envers lui, surtout quand tout va mal. Prions ensemble. Merci Père pour ta parole. Ta parole éclaire nos chemins. Ta parole nous vivifie. Ta parole nous transforme et nous sanctifie, Seigneur. Donne-nous pour cette nouvelle année à venir, Seigneur, la soif et la faim de ta parole, Seigneur. Que nous puissions chacun, chaque jour, mais prendre un temps à part pour être avec toi, Seigneur. Lire ta parole, retenir ta parole pour pouvoir la méditer, pour que vraiment que tu sois avec nous toute la journée, Seigneur, et que nous puissions vraiment tous ensemble progresser dans la sainteté pour te rendre gloire, Seigneur. Et vraiment, surtout quand tout va mal, Seigneur, quand les tempêtes arrivent, Seigneur, nous avons encore à te dire, te rendre grâce, Seigneur, parce que vraiment, nous avons chanté tout à l'heure le projet que tu as pour nous. C'est un projet de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.